François et Charles, les deux cousins se font la guerre. François Ier et Charles Quint entrent en conflit, bien qu'ils soient cousins. À un degré éloigné, certes, tous deux ont pour ancêtre Jean le Bon. François Ier croit en son étoile, Marignan et son auréole. Il est certain que des victoires comme celle de 1515 peuvent se répéter indéfiniment. La France est bien seule désormais. En 1521, les hostilités reprennent et les Français doivent évacuer en hâte l'Italie après la défaite de leurs troupes commandées par Lautrec à Bicoque en 1522, non loin de Milan. François se fâche, il n'a plus qu'une idée en tête, reprendre le duché de Milan en rééditant peut-être l'exploit de Marignan. Voilà pourquoi il franchit de nouveau les Alpes en octobre 1524. Gallio de Gounellac fait réaliser des prouesses à ses hommes afin que les canons franchissent les cols enneigés. La troupe, forte de 30 000 hommes, parvient bientôt dans la ville de Pavie, occupée par les Espagnols. Des attaques sont lancées pour la reprendre, mais elles échouent. François et son armée voient alors arriver, au début de février 1525, des renforts espagnols qui viennent secourir les assiégés. Le voilà pris en sandwich. L'affrontement est inévitable. François Ier va devoir lutter notamment contre le connétable de Bourbon, qui était le commandant suprême des armées royales françaises. En effet, celui-ci a refusé de rendre à la couronne de France les possessions qu'il tenait de son épouse défunte. Il est passé dans le camp de Charles Quint en 1523. Le 24 février 1525, au matin, la bataille s'engage. Les canons espagnols tirent sur les lignes françaises, mais, mal réglés, leurs tirs vont s'échouer loin derrière ceux qu'ils visent. À son tour, l'artillerie de Gallio de Gounellac entre en action. Effet merveille, si l'on peut dire, écrasant dans les lignes espagnoles tant d'hommes et de chevaux que la victoire semble acquise. Ou presque. Parce qu'il faut compter avec un roi de France impétueux, imprévisible et si impatient d'entrer dans le combat qu'il n'écoute personne et se lance au triple galop vers les lignes espagnoles. Les canons de Gounellac se taisent tout à coup. Comment, en effet, continuer de tirer pour assurer la victoire sans écrabouiller le roi de France dont on aperçoit le panache blanc qui se fond dans les lignes ennemies? C'est bientôt la déroute dans le camp français. François se débat seul, entouré d'Espagnols qui le cernent et le poussent à se rendre. Les chevaliers, plutôt que de fuir, enlèvent leurs cuirasses pour se faire tuer plus vite. Au soir de la bataille, le désastre est total. L'armée française est décimée et le roi emmené prisonnier. Dans le camp espagnol, on exulte. Personne n'aurait imaginé qu'un tel cadeau pût être fait à l'empereur Charles Quint. En ce 24 février 1525, jour de son anniversaire.
La vérité de la Palice. À la gauche de l'armée royale se trouvait le maréchal de la Palice. Qui était ce maréchal? Certainement pas celui qu'on présente aujourd'hui comme une sorte de radoteur qui, sans s'en rendre compte, énonce deux fois la même chose, énoncé auquel on donne le nom de la Palissade. Jacques de Chabannes, seigneur de la Palice, 1470-1525, était un courageux maréchal qui se battit à Pavie avec une énergie qui força le respect du capitaine Castaldo à qui il se rendit. Mais survint une brute nommée Butarzo qui lui décocha un coup d'arquebuse à bout portant dans la cuirasse. Le maréchal de la Palice en mourut. Les soldats du maréchal, désolés de voir leur chef oxy, écrivirent pour le chanter le petit quatrain que voici. Monsieur de la Palice est mort, mort devant Pavie. Un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore envie. Il faisait envie tant son courage était exceptionnel. Un académicien, au XVIIIe siècle, transforma la fin du quatrain en « un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie ». Cette évidence a donné naissance au profit d'un La Palice un peu simplé qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez.
François Ier est emmené en Espagne, près de Valence. En septembre, il tombe gravement malade, au point qu'il sombre dans le coma. Revenu à la vie, il commence à négocier les conditions de sa libération. Celles-ci, contenues dans le traité de Madrid, signé le 14 janvier 1526, sont les suivantes. Il est dépossédé de la Bourgogne, de l'Italie. Il doit livrer en otage ses deux fils, le dauphin François et Henri, le futur Henri II. Libéré le 17 mars 1526, François Ier s'empresse de dénoncer ce qu'il a signé le 14 janvier. Les hostilités vont reprendre, mais finalement, le roi et l'empereur se réconcilient et signent, en 1529, la paix de Cambrai, ou paix des dames, car elle est négociée entre Louise de Savoie, mère de François Ier, et Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint. François, veuf de Claude de France, morte en 1524, accepte d'épouser la sœur de Charles Quint, Éléonore d'Autriche. Il conserve la Bourgogne, renonce à l'Italie. Les deux petits princes en exil seront restitués contre 7 tonnes d'or, la moitié étant payable à leur mise en liberté. Le mariage de François et Éléonore a lieu le 4 juillet 1530, près de Mont-de-Marsan. On croit la paix revenue, on a tort.
Les diamants du Canada. Le 24 juillet 1534, un Malouin, Jacques Cartier, financé par le roi de France qui lui a alloué 6000 livres, prend possession de la péninsule de Gaspé, au nord-est du Canada. Il noue des relations amicales avec les Indiens Micmac et les Iroquois, explore les côtes et quelques terres, puis revient en France afin de mettre sur pied une nouvelle expédition dont l'objectif est de découvrir des gisements d'or. Le 19 mai 1555, il appareille de Saint-Malo. Le 10 août, il entre dans une baie qu'il nomme Laurent en l'honneur du Saint du jour, devenue depuis la baie du Saint-Laurent qui termine le fleuve consécutivement du même nom. Puis il remonte le cours d'eau guidé par les Indiens. À la mi-septembre, il atteint Stadacone, où sera plus tard fondée la ville de Québec. Le 2 octobre, il aborde à Hochelaga, site de la future ville de Montréal. Une troisième expédition est organisée en 1541. Jacques Cartier en revient avec ce qu'il croit être de l'or et des diamants. Hélas, l'or n'est que du cuivre et les diamants sont du pur mica. Ainsi naquit l'expression « faux comme les diamants du Canada ».
François Ier ne supporte pas la supériorité de Charles Quint, qui ne cesse de recevoir du Nouveau Monde de l'or, de l'argent. Après s'être rapproché des princes protestants allemands en 1531, il en arrive à faire alliance avec le sultan turc Soliman le Magnifique, laissant stupéfait le monde chrétien. C'est ce qui déclenche une guerre en 1536, le temps que soient commises de nouvelles horreurs en Provence. Destruction des fours, des moulins, incendie des blés, des fourrages, empoisonnement des puits, etc. Tout cela afin que l'armée de Charles Quint recule. Et tout cela pour rien, puisque François Ier et Charles Quint se réconcilient à grand renfort d'embrassade, allant jusqu'à coucher dans la même chambre pour montrer que leur entente est celle de deux presque frères. 6 ans plus tard, le rêve italien de François Ier refait surface. Dans le même temps, Henri VIII et Charles Quint s'allient pour empêcher le roi de France de mettre le pied en Italie. Le 14 avril 1544, le comte d'Enghien remporte pour la France la victoire de Cerisole en Italie. Aussitôt, le roi d'Angleterre et l'empereur du Saint-Empire attaquent, le premier Boulogne, le second la Champagne. Mais l'argent se faisant rare de part et d'autre, on arrête les frais. La paix est signée à Crépy en Laonnois.
Françoise de Foix et François. Morlaix, printemps 1505. Dans la petite église en bord de mer, Anne de Bretagne assiste, recueillie, à une messe. On remarque dans l'assistance le seigneur Jean de Laval, un grand jeune homme de 19 ans. et ce jeune homme ne quitte pas des yeux une toute jeune fille, presque une enfant, Françoise de Foix. Elle a seulement 11 ans. Elle est déjà si belle que Jean de Laval en tombe amoureux fou. Que se passe-t-il après la messe? On ne le sait trop, mais ce qui est certain, c'est que l'année suivante, Françoise de Foix, à l'âge où les élèves aujourd'hui entrent en 5e, accouche d'un enfant dont le père est Jean de Laval. En 1508, ils se marient. Pendant 10 ans, le couple vit un bonheur sans nuages au château de Châteaubriant, aujourd'hui en Loire-Atlantique. Mais François Ier, qui ne s'illustre pas que sur les champs de bataille, entend parler de la grande beauté de Françoise de Foix. Il invite le couple castelbriantais en son château de Blois. Méfiant, Jean de Laval s'y rend tout seul. François Ier ruse et parvient à ses fins. Françoise de Foix devient son amante pour une liaison qui va durer 10 ans. Grande, brune, altière et gracieuse, Françoise de Foix est de tous les voyages de François. Elle participe même au camp du Drap d'Or, aux côtés de la reine Claude de France. Mais à son retour de captivité en Espagne, François tombe amoureux d'une jeune beauté, Anne de Pisseleu. En 1537, Françoise de Foix, délaissée, meurt dans sa chambre, au château de Châteaubriant. On soupçonne aussitôt Jean de Laval de s'être vengé en empoisonnant sa femme infidèle. Depuis, on dit que chaque année, la martyre d'amour fait une apparition dans les lieux mêmes où elle mourut, au 12e coup de minuit.